Jean-Rémy François va nous raconter comment il a redécouvert avec nous, d'ailleurs, je crois, la bibliothèque populaire communale de Montreuil, créée en 1875.
C'est cet été. Donc, chargé de faire un petit point sur une réserve où il y avait des livres anciens. Et que les collègues ont fait bibliothèque communale, on a fait un petit inventaire, on a redécouvert ça, et puis c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. J'ai un peu fouillé. Donc, je vais vous présenter un peu l'historique et puis deux, trois choses sur les catalogues. Je ne suis pas historien, je ne suis pas spécialiste, donc je risque peut-être parfois de faire des erreurs de jugement ou d'appréciation sur l'histoire. Enfin, vous êtes là pour m'aider. Donc j'ai commencé par présenter un peu les sources qui sont réduites et c'est aussi pour moi une occasion là peut-être de faire un appel justement si vous avez des idées que ça me permette de compléter un peu ce travail là. Au niveau des archives, donc on a quelques délibérations municipales dont la première qui est 1875 qui est une décision qui annonce une bibliothèque populaire, une bibliothèque communale et populaire. On a des délibérations ensuite concernant l'acquisition d'ouvrages, on en a trouvé deux. On a les statuts. On a quelques notes du préfet, des notes de lecteur, on a des fiches de dons également. On a un dossier de réaménagement, réhabilitation de la bibliothèque qui date de 1892. Et nous avons donc trois catalogues publiés, donc 1892, 1910, 1924. Et donc ça par contre c'est vraiment intéressant au niveau du fond. Puisque nous n'avons pas eu les moyens en fait humains de faire un inventaire. Hein. On évalue un peu grosso modo à 5000 ouvrages. Donc au niveau des études, je me suis appuyé sur le livre de Noé Richter, les bibliothèques populaires. Donc il y a eu aussi un ouvrage, le discours sur la lecture, avec un article des militants de la lecture républicaine. C'est un ouvrage qui a été publié au sein de la librairie à la BPU en 89. L'article dans les lieux de mémoire, sur les sites. On a la chance en fait à Montreuil d'avoir un historien de la ville, qui s'appelle Philippe Hiver, et donc en 4 volumes a dressé une histoire de la ville, et donc c'est très important, c'est très utile. Voilà pour les sources. La bibliothèque de Montreuil a 129 ans. Donc j'espère qu'on va fêter les 130 ans l'année prochaine. On verra si c'est possible. L'intitulé, c'est bien Bibliothèque communale populaire. Donc, c'est ce qui montre un petit peu une double parenté. Donc, il y a cet aspect communal et l'aspect populaire. Et les premiers tampons sur les ouvrages sont bien des tampons Bibliothèque communale populaire de Montreuil. Donc d'un côté, elle naît vraiment d'un corpus de loi qui est publié en 1874 et qui encadre pour la première fois en fait la lecture publique. Donc c'est le ministre de l'Instruction de l'époque, c'est Jules Sibou, qui lance comme ça une étude à partir des préfets sur les bibliothèques populaires et puis qui propose en fait à des municipalités ou des associations de s'inscrire comme ça dans un règlement moyennant des souscriptions et puis des coups. C'est pour ça qu'elle s'appelle bibliothèque communale. Et d'un autre côté, elle est aussi populaire, parce qu'elle s'inscrit en fait dans l'expérience des bibliothèques populaires qui est née en 60, et elle s'inscrit vraiment dans cette ligne, également en fait dans le fonctionnement aussi. Et elle est portée par des hommes politiques de l'époque, qui sont des radicaux, et qui apparemment donc avaient déjà milité pour une lecture publique, pour l'ouverture d'une bibliothèque qui était fédérée avec la bibliothèque des aînés d'instruction d'ici. Puisque j'ai retrouvé deux tampons sur les livres, disons, avec donc inscrit bibliothèque populaire des amis d'instruction et au milieu Montreuil sous bois. Le problème c'est que je n'ai pas d'autres informations. J'aimerais bien trouver une liste en fait des bibliothèques populaires des amis d'instruction dans la Seine. On verra plus tard. Donc je ne sais pas si ça a été saturé, si c'était mis en concurrence, si c'était un peu avant ou après. Toujours est-il qu'il y a quand même un homme politique qui s'appelle Mathurin Lahaye, qui est un radical, et donc qui lui a fait don d'un livre à la bibliothèque des amis d'instruction de Montreuil et qui ensuite était un des promoteurs de la bibliothèque communale populaire de Montreuil. Mais il y a vraiment une filiation entre notre aspect de bibliothèque populaire et la bibliothèque communale. C'est ce qui est intéressant aussi, c'est sur la période historique. La bibliothèque populaire communale s'arrête en gros avant la Seconde Guerre mondiale. Après la Seconde Guerre mondiale, il y a toute une modernisation et une tentative de professionnaliser la lecture publique et l'ensemble du fonds se retrouve en sous-sol et en réserve ou en carton. Et donc ça correspond vraiment, en fait, cette bibliothèque à la durée de la Troisième République. Le gros du fond est acquis jusqu'en 1910, et après il y a un renouvellement, mais donc de 1879 à 1910. Donc je vais parler un petit peu du contexte local. La première citation, en fait, dans les délibérations municipales, c'est le 7 mai 1875, avec une petite phrase comme ça, qui prévoit l'établissement d'une bibliothèque communale et populaire, donc elle est quand même au milieu, qui, je cite, travailler à la moralisation publique par la diffusion des Lumières. On est dans un contexte où, petit à petit, l'esprit républicain prend un peu le pied et s'affirme de plus en plus, même s'il n'est pas encore complètement réalisé. Au niveau local, en 1875, c'est encore un maire de droite conservateur, Théophile Sueur, qui est vraiment conservateur pour l'occasion. Donc on se demande pourquoi il a voulu lancer une bibliothèque communale et populaire. Il est élu, mais il est nommé à cette époque-là, parce que la loi de Corral, elle est comme ça. La grande partie des conseillers municipaux sont radicaux, et eux prônent une lecture populaire, un mouvement progressiste, comme ça se fait les idées. Donc finalement, il y a sûrement un compromis à ce niveau-là, et en plus il a l'occasion de s'inscrire dans une loi de cette époque. Et cette bibliothèque a été portée vraiment par des hommes politiques, alors à la différence de la bibliothèque des amis d'instruction, qui est en fait un mouvement plus civil ou associatif, là c'est vraiment des hommes politiques. Donc c'est aussi une des raisons pour laquelle il s'inscrit aussi dans un cadre légal, puisque finalement c'est eux qui sont au pouvoir, et le radicalisme à Montreuil va très rapidement s'imposer en plus, au niveau aussi du département. Apparemment aussi, c'est avéré que les militants comme ça de la bibliothèque de la lecture populaire, à cette époque-là, donc il y a un peu deux camps. Il y a ceux qui disent on va continuer notre action associative, on va rester bibliothèque populaire associative, et d'autres qui choisissent justement de rentrer dans un cadre légal et pérenniser. Je vais parler un peu de Montreuil, puisque c'est le contexte local est très important. Donc en 1870, ça reste une ville qui vit vraiment de sa production horticole. La grosse production économique, c'est c'est encore l'activité économique dominante. Mais il y a déjà en 1870 une quarantaine de fabriques avec des métiers assez spécialisés, donc qui ramènent quand même des ouvriers qui ont un niveau un peu d'éducation, ou en tout cas sur le métier, et des personnes, on se doute bien, qui vont prendre en compte le bulletin de vote et qui vont vouloir un peu asseoir aussi leur voix dans le suffrage universel. Donc ce qui change un petit peu les rapports de force. Voilà, donc sur le cadre réglementaire, Jules Simon en 1873, il signe une circulaire qui demande au préfet en fait, de faire une grande enquête sur les bibliothèques. Jules Simon, qui était un militant, notamment enfin, de la lecture aussi populaire, il demande vraiment une enquête qui est assez précise et pointue sur l'état des bibliothèques, le public et autres. À la suite de cette enquête, donc, il promulgue des mesures en 1874 avec un service des bibliothèques populaires au ministère de l'Instruction publique et une possibilité, donc, une sorte de main tendue du pouvoir pour aider à la constitution de bibliothèques municipales aussi et réglementer tout ça. Au final, c'est aussi pour contrôler ces bibliothèques. Il y a toute une mesure de censure également et de surveillance des acquisitions et des achats qui passent par le préfet et par le ministre, notamment. Bon, c'est un peu plus tard, mais donc, c'est aussi une petite note du préfet au bibliothécaire de l'époque. Donc, monsieur le bibliothécaire est prié de faire parvenir d'urgence au deuxième bureau du cabinet la statistique du mois d'avril. Avis lui est donné que les bulletins statistiques doivent être envoyés dès la clôture des opérations de prêt le 5 de chaque mois au plus. Donc vraiment, il y avait un suivi statistique assez... Il y avait une commission qui a été mise en place pour surveiller les achats. Chaque acquisition devait remonter en fait au préfet, une commission qui surveillait les achats. Et il y avait une commission déjà dans la bibliothèque avec des personnes nommées en accord avec le préfet. Donc il y avait vraiment un contrôle mais très très rigoureux. Il y a une délibération en 1875 dans une situation un peu délicate parce qu'on est encore sous le régime de l'ordre moral. Et les républicains qui essaient de pousser pour prendre le pouvoir, mais c'est une situation politique tendue, instable. Et donc, en 1875, il y a cette délibération à Montreuil, d'un maire qui est conservateur, et finalement, il faut attendre 1879 pour qu'il y ait la véritable fondation et l'ouverture de cette bibliothèque. Donc, entre-temps, il y a un flottement. Donc, il y a quelques hypothèses, évidemment. On se dit, bon, c'est peut-être le temps de l'acquisition des ouvrages, mais a priori, c'est quand même plus une affaire politique. Puisqu'en fait, en 1879, il y a les républicains qui assoient leur pouvoir, c'est la constitution de Rélie. Et donc c'est juste après que le maire radical de l'époque, Arsène Chéreau, décide donc de publier les statuts. Bon, c'est vraiment le contexte politique qui favorisait ça. Donc Arsène Chéreau, qui était un radical convaincu, donc à Montreuil, pendant 30 ans, de 1876 à 1900, c'est vraiment un pouvoir radical. Donc avec les valeurs du progrès social... C'est des radicaux qui étaient assez marqués à gauche. Alors au niveau des statuts, il y a un comité. Dans le comité d'administration de la bibliothèque, c'est évidemment le maire fondateur, Arsène Chéreau. Donc c'était quelqu'un, évidemment, qui était vraiment un militant de la lecture, puisque déjà, il fonde cette bibliothèque. Il accorde un budget pour l'acquisition de livres qui est assez conséquent, enfin, je crois à l'époque, qui est de 6000 francs. C'est un gros budget, hein, c'est ça. Je connais pas trop relativement. Hein. Donc en 1879... L'année d'après, c'est pareil, il remet 3000 francs. Donc c'est vraiment, il voulait vraiment faire quelque chose de bien.
Pour vous donner une idée, le livre ordinaire était à 3 francs ou 3 francs 50, un livre.
Oui, c'est ça.
Et la bibliothèque Charpentier.
Alors au niveau de l'ouverture, elle ouvre 6 heures par semaine, essentiellement pour faire du prêt ou en public. lecture. Hein. C'est le dimanche matin, donc ça c'était conseillé justement par la Société Franklin. Et on voit qu'il y a beaucoup de choses comme ça qui se répètent, on sent qu'ils sont plus inspirés de l'expérience des bibliothèques populaires avec les sociétés qui étaient derrière, plutôt que des instructions en fait, du ministère, qui étaient des instructions qui faisaient plus référence aux bibliothèques municipales où il y avait des fonds anciens et aux façons de travailler dans ces bibliothèques. Donc malgré le fait que ce soit une bibliothèque communale, dans l'esprit c'était assez populaire à ce niveau-là, puisque...
Oui, ça s'oppose peut-être à ce qu'on appelait les bibliothèques d'études.
Voilà.
Quelqu'un avait des vieux fonds.
Voilà, bah, toutes les bibliothèques héritées finalement des saisies révolutionnaires, donc il y en a je crois une vingtaine en France, et donc il y avait ça, les bibliothèques universitaires, et puis sinon les bibliothèques. Donc voilà, c'était 6 heures par semaine, donc les lecteurs ne pouvant porter qu'un volume à la fois, et la durée ne pouvait pas excéder 15 jours, il fallait avoir 20 ans pour emprunter. Mais le prêt était gratuit. Pour les
hommes et les femmes, parce qu'à Paris, ça a été pour les hommes, c'est un bon moment.
Alors là, j'ai pas de mention.
Le 11e arrondissement de la première bibliothèque municipale de France, Révolution, c'était autorisé aux femmes.
Après, je ne peux pas vous dire. Franchement, ça, je sais pas.
Ultimement, le progressisme, ce qu'il écrit sur les femmes est un petit peu en retard. Parce que il arrive qu'il y ait des décalages sociologiques.
Donc, apparemment, c'est vraiment tout public, hein, puisque bon, il y a les.
Personne ayant son domicile à Montreuil. Là.
Voilà, donc le bibliothécaire, souvent à l'époque c'était plutôt du bénévolat aussi, il était rémunéré. Donc le premier bibliothécaire c'est un certain monsieur Ravet, et il était aussi conseiller municipal. Voilà, c'est la mairie, voilà, la mairie radicale, marquée à gauche, c'est la mairie. Quand je dis bénévole, c'est que je ne sais pas trop employer d'autres mots, c'est-à-dire que c'était vraiment une pratique plus proche du bénévolat, c'était pas des professionnels, si vous voulez. Donc il tenait en fait une ouverture de bibliothèque. Mais ils étaient rémunérés.
Défrayés.
Voilà, c'est plus ça. Oui.
Est-ce que les livres étaient équipés? C'est-à-dire, ils étaient bien reliés en toile?
Alors là, notre collection, elle est complètement uniforme, c'est reliure tissu noir. Hein. Oui, ça devait être le même relieur qui a fait ça. Bon, excepté les dons. C'est vrai que je n'ai pas parlé des dons, mais dans les statuts, ils notent bien. C'est quelque chose d'assez important, ça, quand même.
Ils disent effectivement, la bibliothèque est établie au moyen d'un crédit voté par le conseil municipal, d'ouvrages offerts par monsieur le ministre de l'Instruction publique et principalement de dons volontaires, soit en argent, soit en livres.
Donc au niveau des. On a une délibération justement, donc un des premiers achats de la bibliothèque, c'est assez intéressant ça. Donc il se fournissait chez Marpont et Flammarion. Alors parmi les premières acquisitions. On a les œuvres de Volabel en 10 volumes, 10 volumes reliés, voilà, qui coûtaient 55 francs. Oh non. Et il y a eu Buffon, donc c'est le best-seller, puis Montreuil, donc il y avait une tradition de l'agriculture, d'horticulture, etc. Et il y avait Proudhon, donc toutes les œuvres en 34 volumes, et les correspondances en 14 volumes. Donc là, ils ont fait un paquet sur Proudhon. Donc ce qui marque quand même à l'époque, ils étaient assez progressistes, parce que je pense que tout le monde n'achetait pas Proudhon.
D'ailleurs, on revient là, dans le catalogue de 1892. Je le fais un peu, il y a une section spéciale.
Socialisme.
Voilà, exactement. Économie et socialisme, qui est assez fourni, effectivement, tout comment.
Au niveau de l'histoire politique, Montreuil commence vraiment à cette époque-là. Ça commence à glisser sur le radicalisme. Ensuite, bon, il y a une petite alternance avec la droite, mais le socialisme commence à grimper en force. En 1919, c'est les socialistes. Ensuite, c'est pareil, une mairie un peu centre-droit, vers de 1929 à 35. Et ensuite, c'est les communistes jusqu'à 2008. Et ça suit également tout le mouvement de la révolution industrielle où il y a une montée en puissance de la population. Il y a 12 000 habitants en 1870 et en 1937 il y en a 70 000. Avec une grosse vague d'immigration donc après la Première Guerre mondiale, beaucoup d'Italiens et autres. Et principalement pour des usines, pour des fabriques. Donc c'est à 40% ouvriers en 1910. La bascule au niveau de l'activité économique se fait au tournant du siècle en fait. Vers 1900, donc c'est plus la principale activité n'est plus l'horticulture, les fruits, les pêches ou autres, ça devient vraiment les industries. Une petite parenthèse aussi, donc la différence quand même entre une bibliothèque communale populaire et une bibliothèque populaire, c'est que dans les bibliothèques communales populaires, il n'y avait pas de soirée lecture, qui était quand même une activité, je crois, principale des bibliothèques populaires, qui apparemment se souciait peut-être presque davantage du lecteur que du livre. Donc, alors que là, dans une bibliothèque communale populaire, elle est vraiment dans une constitution de fond, bon, évidemment, pour aider à. Qualification, la professionnalisation des ouvriers, puis aussi pour éclairer. Il n'y a pas ces soirées lecture, mais à Montreuil, il y a quand même une petite anecdote, c'est qu'il y a des soirées lecture, des soirées ouvrières à Montreuil qui vont apparaître en fait. C'est en 1896, donc c'est aussi un typographe. C'est un typographe qui s'appelle Méro. Et en 95, donc, il crée un comité pour mettre en place des soirées ouvrières. Donc, vraiment sur le modèle des soirées lectures. Mais lui, ce qu'il veut, il a de l'ambition, c'est d'inviter les grandes personnalités, en fait, du monde des lettres, du monde intellectuel, pour qu'ils fassent des conférences aux ouvriers.
Ça, ce qui est très très classique, exactement. Oui, oui, c'est ça.
Ah, c'était ça, pareil.
Et puis, c'est aussi le principe de toutes les conférences de l'association Chez les Techniques, où c'était souvent des gens extrêmement bien académiques et bien en place et célèbres. Qui donnait des conférences à l'usage des ouvriers ou des gens qui voulaient se former.
L'affiliation, en fait, ça vient à Montreuil, ça commence. Et donc, c'est Méro qui est Montreuilois avec un certain Georges Deher, qui était plutôt anarchiste. C'est ce groupe-là qui font les soirées ouvrières de Montreuil, qui deviendront donc par la suite, qui sont reprises au Faubourg Saint-Antoine, aux alentours de 1900. Et l'origine est effectivement donc, une première expérience à Montreuil. Donc, à défaut de faire des soirées à lecture dans la bibliothèque populaire, ils en étaient quand même dans les écoles le soir. Et un des intervenants réguliers était Anatole France. Je vais passer un peu au XXe siècle, ça va être encore plus rapide. Et là, par contre, au niveau politique, c'est pas la droite qui va éliminer la première décennie. Donc, bon, c'est assez curieux, mais le radicalisme, en fait, on est en chute libre. Il y a la SFIO qui se crée, une montée en puissance des socialistes, mais vraiment tout doucement. Et donc, au niveau de la bibliothèque, au final, il ne se passe pas grand-chose, excepté donc, il y a eu un premier catalogue en 1992. Est-ce que j'ai pas dit pour revenir quand même, pour montrer quand même que c'est Arsène Chéreau qui était le maire pendant quasiment 30 ans à Montreuil, a vraiment œuvré pour sa bibliothèque, puisqu'il l'a ouverte en 1979, donc il lui permet la publication d'un catalogue en 1992, il réaménage la bibliothèque en 1896, sur un budget de aussi 4000 francs, je crois. Donc avec un nouveau parquet, il y a aussi une mezzanine qui investit. Donc bon, c'était vraiment quelqu'un qui s'en souciait.
Excusez-moi, c'était dans la mairie?
Oui, c'était dans la mairie, oui, comme la plupart, dans une aile droite de la mairie. Donc en 1906, dans l'état des communes du département de la Seine, si ça s'estime comme ça en notice. Donc il y a une brève là, sur la bibliothèque communale populaire. Ils mettent d'ailleurs là la bibliothèque municipale. Mais dans les tampons, dans les catalogues, ça reste bibliothèque communale populaire, hein, jusqu'au dernier catalogue de 1924. Donc, c'est que par la suite, en 1930, que là on oublie complètement la référence populaire pour dire bibliothèque municipale. L'arrivée des communistes. Donc sur cette. Donc il donne quelques détails un peu pratiques. Donc la bibliothèque municipale est ouverte auprès le mardi et le jeudi. De 8h à 10h du soir et le dimanche de 9h à 11h. Il y a une heure de moins en fait que les bons. Pour être amené à recevoir des livres en prêt, il faut être âgé de 16 ans. En fait, c'était plus âgé. Donc ça s'est diminué déjà. Voilà. Il y a des livres pour la jeunesse, hein, mais c'est vrai qu'on est jeune. Donc en 1935, là au niveau de la bibliothèque, il y a constamment des acquisitions d'ouvrages, mais qui ne sont pas en grand nombre. Hein. Et c'est par contre en 1935, là c'est une anecdote, mais c'est assez intéressant. Donc, en 1929, c'est une mairie de droite, c'est assez conservateur, mais ils sont mal barrés pour les élections en 1935, municipales. Et donc, ils entreprennent un grand projet pour construire une nouvelle mairie, qui est actuellement la mairie d'ailleurs. Alors, un beau projet qui coûte très très cher. Et finalement, ils se cassent la figure, ils perdent les élections. Et les communistes donc, prennent la mairie en 1935. Et ils révisent le projet initial de la mairie. À la place de la salle des commissions et le fumoir des conseillers, ils installent une salle de lecture pour la bibliothèque. Et c'est inauguré en 1937, hein. Et à l'inauguration, donc, il salue cette bibliothèque comme étant l'une des plus grandes du département. Donc, c'est la pub aussi. On a toujours les étagères. Hein. Il n'y a pas d'augmentation des inscrits quasiment en 30 ans. Ça reste aux alentours de 1000 inscrits. C'est très faible. Hein. Bon, en 1935, il y a 12600 volumes. C'est marrant, il y a une mention aussi dans une publication de la bibliothèque en 1935. La bibliothèque ne possède actuellement pas de livres en langue étrangère, y compris l'espéranto. C'est vrai, y compris l'espéranto. C'est pareil, il y a toujours comme ça des références un peu. Donc en 1892, il y a 3591 titres. En 1906, 5862 titres. Donc il y a quand même une grosse acquisition, plus de 2400 titres en plus. En 1910, là c'est de 1906 à 1910, une petite progression, 6357 titres en 1910. En 1924, 14 ans après, il y a 8000 titres. De ce qui fait 1500 titres en plus, donc c'est pas une première année. Et de 1924 à 35, il y a 2600 titres en plus, donc on arrive à 2600 titres. C'était le sommet un peu de bibliothèque, ce fond de cette bibliothèque, puisqu'après, donc, c'est la Deuxième Guerre mondiale, et après, on change vraiment au niveau de la nature des collections.
Voilà. Que vous voyez l'entrée des romans en masse
Oui, ici, alors. Oui. Là, je parle juste au niveau du classement. Donc, les bibliothèques communales, donc, qui étaient dans le cadre réglementaire, comme ça, c'est strict. Donc, les instructions du ministère, c'était de procéder à un classement qui était par format, et puis par entrée, et puis par auteur. À Montreuil, ils sont vraiment calés sur donc, ce que la société Franklin proposait. Donc, au niveau des divisions du classement, on retrouve vraiment l'esprit comme ça là, c'était vraiment pensé en fait pour le public, c'est-à-dire qu'il se retrouve tout de suite.
Sauf qu'à Seekers Moon, ne commence pas par la science. Alors, vous avez les dictionnaires, les revues, histoire, géographie, philosophie, religion, éducation, etc., économie, politique et socialisme. La politique, science, histoire naturelle, la littérature, poésie, théâtre, on met le roman à la fin. Mais c'est déjà presque un tiers.
Voilà, donc voilà, c'est 28% 92.
Et j'ai vu aussi qu'il y a les voyages un petit peu avant, quand même, dans les voyages, vous avez une colonne entière où c'est tous les Jules Verne.
Ah oui, donc, en fait, tous les romans là-dessus. Et au niveau des romans, il y a une progression donc entre 1892 et 1910. 1892, c'est 28% du fond et c'est 41% du fond en 1910 et ça n'arrête pas. Donc ils ont fait exactement le même constat que tout le monde. C'est au niveau des prêts notamment, ils se sont rendus compte que ce qui intéressait plus c'était les lectures récréatives et pas les lectures professionnelles. Donc là, oui, j'ai quelques statistiques en 1906 au niveau des prêts. Bon, là c'est pareil, pour confirmer un peu ce que le fait que les romans intéressent beaucoup plus et qu'au départ ces bibliothèques-là étaient davantage un peu plus politisées pour essayer de donner un peu des outils pour les professions, des outils aussi politiques sur la connaissance du droit ou autre. Donc en 1906, une géographie et voyage, c'est 2905 prêts en 1906. Les romans, c'est 9767 prêts. Et le total des prêts, c'est 17 000. Donc il y a la moitié des prêts en 1906 qui est du roman. Alors que c'est que 35% du fonds.
Qu'est-ce qu'elle devient après 1935? On met en caisse le vieux fonds,
on va dire? On va garder encore quelques usuels, donc après la Deuxième Guerre mondiale, mais la plupart du fonds est mis en réserve. En 1950 arrive Christian Cohen qui commence vraiment la professionnalisation du métier. Et petit à petit, l'ensemble du fond, finalement, une partie donc, en réserve, ensuite dans les cartons, parce que ça embarrasse. Et puis moi, je les ressors, là, les cartons.
Mais excusez-moi, vous étiez bibliothécaire à la bibliothèque municipale de Montreuil, alors. Et puis on vous a demandé d'aller voir dans les réserves, c'est ça le départ de l'aventure.
Voilà, c'est de faire un inventaire, puisqu'on cherchait un incunable qu'on n'a jamais trouvé. Et les bibliothèques de lecture publique, parfois, conservent quelques fonds comme ça, patrimoniaux, qui viennent de je ne sais où. On a une encyclopédie Diderot, on a un dictionnaire de Bell, des choses comme ça, de 150 ouvrages du 18e. Et donc, de faire un peu le point, puisque personne ne s'en est jamais occupé, et les conditions de conservation, etc. Ce qui est intéressant un peu sur cette histoire-là, c'est que, moi, je trouve, c'est cette double parenté entre donc, un premier cadre légal pour la lecture publique à partir de 1874 et une filiation avec les bibliothèques populaires. Au niveau aussi de la promotion un peu vis-à-vis des élus de ce fonds-là, donc, ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment lié à l'histoire d'une ville. Et donc, au niveau des fonds, même, on le voit, à Montreuil, il y avait une tradition de chorale populaire. Donc on a un fonds musique d'en gros de 200 livres en fait du 19e. Cette tradition locale de musique populaire, donc il va y en avoir 30 ou 40. Donc par exemple, je vais vous citer quelques titres, il y a les 57 exécutants de la mandole, une société mixte d'étudiants tina fondée en 1903, et leur mandoline magique. Donc, il y avait la chorale Chevet, qui était fondée en 1879. Il y avait l'humour lyrique et dansant en 1900, les peinards du Haut-Montreuil, les compagnons de la rampe, proche de la barrière, parce que c'est une ville aussi, donc il y avait ce qu'on a appelé plus tard la zone, donc il y avait les fortifications là, pour les chars entre Paris et la banlieue, justement. Il y a les pinsons de Montreuil, ou la maison. Ah oui, les pinsons. Alors, j'ai une petite image d'une chorale quand même, qui s'appelle les pingouins. Voilà, ça va de la grand-mère au tout petit qu'à la trompette, c'est vraiment génial.
Et ça, vous avez encore donc des livres de musique ou des partitions?
Oui, on a un fonds musique. Vous pouvez regarder dans le catalogue. Oui, des partitions essentiellement.
Il y a aussi
des opéras. Il y a aussi des opéras.
Des réductions chant piano.
Qu'est-ce qui se passe actuellement? J'ai contacté des personnes pour savoir, les autres bibliothèques en fait de la Seine-Saint-Denis, pour savoir s'ils avaient des fonds de bibliothèque populaire, s'ils en avaient fait quelque chose ou pas. Alors il s'est avéré qu'à Saint-Ouen, ils ont un petit fonds à 2000 ouvrages en groupe, peut-être un peu moins, mais qui correspond aussi à des activités de la ville. Et donc il y a une construction de médiathèque là-bas, et ils ont fait une sorte de une petite mémoire sur le catalogue, un patrimoine livresque et mémoire ouvrière qu'ils ont intitulé. Ils lancent quelques pistes comme ça pour essayer de promouvoir, de faire passer, de connaître un peu les centres de recherche ou autres. Donc il y a Saint-Ouen, à Montreuil. Il y a Agnières.
Bien sûr.
En fait, là, c'est créé un groupe de travail sur justement les bibliothèques populaires et le patrimoine en général.
En Seine-Saint-Denis. Oui,
c'est bien.
On va faire une enquête, on va essayer comme ça d'inventorier un peu ce qu'il y a, les fonds qu'il y a, etc.
Mais une enquête, c'est une bonne idée pour un peu lancer les.
Saint-Denis ont un gros fonds en bibliothèque populaire. j'ai lancé un peu quelques pistes, par exemple vis-à-vis des élus, ce qui est intéressant sur ces fonds-là, évidemment, c'est l'histoire de la bibliothèque et liée à l'histoire locale, donc là vous l'avez bien compris. Les fonds aussi donnent un point de vue sur l'activité. Enfin, ça peut intéresser aussi les universitaires ou du CNEM qui travaillent sur l'histoire des techniques. Donc à Montreuil, évidemment, on a un fonds sur l'horticulture, parce qu'il y avait aussi une société d'horticulture de renommée internationale à Montreuil, qui gagnait des prix de la cerise à Francfort, etc. D'ailleurs, on a le don d'un notable de Montreuil, qui était M. Sueur, qui était en fait, qui est la personne qui a importé le premier la cerise, la variété de la cerise anglaise en France. Donc il y avait vraiment toute une tradition horticole.
Ça, c'est dans ce qu'il faut ressortir avec les nouveaux.
Il me rappelle, je sais que c'est la figure dans le 1900, presque tout au l'étoile, à cause du train, parce que les pêches du midi arrivaient. On peut trouver des moyens de médiation vis-à-vis du public, hein, des accueils de groupe, que ce soit des adultes ou des jeunes scolaires, et leur faire passer un peu cette histoire de la commune, de la ville où ils habitent.